Vous écoutez
RMC. RMC.
18h-20h.
Roten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Roten.
18h59, allez, c'est reparti pour Roten Régal pour cette deuxième heure. Toujours avec Jean-Michel Larquet, bien sûr, Jean-Louis Tour. Jean-Louis, allez, là, on va s'attaquer au multiplex européen. On va faire le tour des équipes qui peuvent lutter avec nous pour l'Euro.
Hein,
pour
exactement.
La Coupe.
Pour la Coupe du Monde ensuite, mais l'Euro qui arrive cet été. Alors on bouscule un peu nos habitudes. Exactement. Parce qu'on est en trêve internationale, pas de multiplex Ligue 1, mais donc nos spécialistes du foot européen dans une seconde. À 19h30, l'actu du jour et un coup de gueule dans Roten Régal. Il y a un an, Michel Hidalgo nous quittait, et donc un an plus tard, la Fédé n'a presque pas rendu hommage au sélectionneur légendaire. Coup de gueule à venir de son ami de 30 ans. Et on y reviendra aussi avec son ancien joueur Luis Fernandez, qui sera avec nous dans Roten Régal tout à l'heure. Et puis venez vous inscrire pour le quiz de Roten Régal. Ce sera à 19h45. Ah. J'espère que vous avez bien révisé, Jérôme et Captain.
Ah oui, oui. Ah bah surtout Jean-Michel, parce que là,
au téléphone, ça fait
rien. Mais Captain, il y a égalité parfaite
je
là.
Fais au téléphone.
Mais arrête de crier, il y a égalité avec Jérôme. Cette fois, pour une fois.
Oui, téléphone.
Mais il n'écoute rien celui-là.
Il
radote.
Je m'en fous. Il a eu trop d'avantages jusqu'à présent.
Et n'oubliez pas l'événement. Qu'est-ce qui se passe après 20h, Captain?
Après 20h,
le rugby.
Et oui, le rugby, voilà, Jérôme y suit.
On a parié combien?
Il y a un after rugby même.
Soirée spéciale sur RMC. On a parié, je sais plus, le but.
Entre 8 et 14.
Non, l'essai d'Olivon. L'essai d'Olivon surtout, t'as retenu.
Et plus l'essai de Charles Olivon.
Bref, soirée spéciale sur RMC.
Comment s'appellent les habitants de Saint-Pé-sur-Nivelle?
Oh, j'ai oublié. Un truc qui n'a rien à voir avec Saint-Pé-sur-Nivelle.
Ben, c'est Saint-Pertard.
Oui, ben, ça n'a rien à voir.
Saint-Pertard,
d'accord, très bien.
Voilà,
alors, l'événement, c'est donc à partir de 20h, soirée spéciale France-Écosse, avec la Dream Team, Denis Charvet, Richard Pout-Jones et Richard Dourte. Le match en intégralité avec Wilfried Templier et les réactions au coup de sifflet final dans un after rugby exceptionnel jusqu'à minuit. Mais tout de suite, nous, on revient sur le foot et même le foot européen.
RMC, Roten Régal.
Européen.
Alors on salue nos correspondants de Ligue 1 qui d'habitude sont là pour le multiplex Ligue 1 à 19h, ils sont tous en train de se reposer.
En repos.
Ils sont remplacés par nos spécialistes du foot européen, Julien Laurence en Angleterre, salut Julien.
Salut à tous.
Polo Breitner pour l'Allemagne, salut Polo.
Bonsoir mon cher Jean-Louis, bonsoir tout le monde.
Et Johan Crochet pour l'Italie, salut Johan.
Bonsoir à tous.
Alors on va revenir avec vous sur l'actu de vos sélections, évidemment, et sur votre actu du moment. Mais d'abord quand même, ça va être intéressant d'avoir votre avis et votre point de vue de vos pays respectifs. La France est-elle, reste-t-elle le favori numéro 1 pour l'Euro? 32-16 pour en débattre. Jérôme, tu réponds oui ou tu commences à avoir des doutes de plus en plus, vu la progression de certaines sélections, et est-ce que tu vois des bleus?
Ouais, bon, la progression, après, ça n'empêche que les matchs, quand ça compte, la compétition, il y a une préparation qui est tout autre, et donc tu peux pas trop imaginer ce qui peut se passer à travers les dernières prestations des équipes. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe de France sera logiquement favori pour l'Euro parce qu'elle est championne du monde, et donc ça, il faudra l'assumer. Après, de là à dire, on l'a encore dit sur la première heure, que l'équipe de France domine son sujet, maîtrise tout. Non, il y a des manques. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que les manques, c'est surtout contre les petites équipes qui sont très regroupées. Après, quand tu regardes les dernières prestations contre des grosses équipes, l'équipe de France a souvent été là, quoi.
Ouais.
Donc là-dessus, c'est pour ça qu'elle part encore avec de l'avance sur les nations dont on va parler avec Polo, Julien et Johan.
Capitaine, tu veux ajouter un mot?
Tout simplement, oui, elle est favorite puisqu'elle est championne du monde. Est-elle la meilleure actuellement? Non, incontestablement, ce n'est pas la meilleure sélection européenne.
Tu citerais qui comme meilleure sélection?
Oh, je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense que l'Allemagne s'est refait une santé.
Ouais.
Je pense que l'Italie revient en bon niveau. J'imagine qu'un jour la Belgique confirmera le talent de ses joueurs. Je pense que l'Angleterre est aussi revenue une grande nation, une grande sélection. Il y a beaucoup
ça fait longtemps qu'on le dit ça aussi. Hein.
Bah on va en reparler avec Julien dans une seconde, mais juste sur ce point de vue, la France favorite, c'est le cas dans vos pays respectifs aussi, messieurs, Polo en Allemagne?
La France a une énorme cote depuis quelques années. On ne va pas revenir à 1998. Mais ce qui plaît énormément en Allemagne, un, c'est le sélectionneur qui est très critiqué chez nous. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de style de jeu, évidemment, mais c'est qu'il est quelque part un peu allemand. Je parle des Allemands des années 70-80. C'est qu'il a transmis à ses joueurs cette volonté de systématiquement gagner. Et ça fait beaucoup, beaucoup parler en Allemagne. D'ailleurs, il y a un énorme respect entre Didier Deschamps et Joachim Löw, d'ailleurs, à ce niveau-là. Et si tu veux, la France aujourd'hui est la référence, parce qu'ils sont évidemment, comme l'a dit Captain, ils sont champions du monde, ils sont champions du monde. Et ils sont dans le groupe de l'Allemagne, ne l'oublions pas, mais ça se joue en Allemagne. Et donc, si je m'arrête juste à ta question, en effet, la France est considérée comme le favori pour l'Euro 2021.
Même chose en Italie, Johan ?
Même chose, ouais, c'est clairement, l'équipe de France est clairement la favorite. Je regardais un petit peu les enquêtes qui étaient faites, et la France arrive tout en haut, un peu devant l'Angleterre et la Belgique. On parle pas trop de l'Allemagne et de l'Espagne en Italie. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Polo, vous savez qu'en Italie, Didier Deschamps est très connu, est passé par le championnat italien, et cette culture de la gagne, comme on l'appelle un peu habituellement, bah, ça plaît beaucoup aussi aux Italiens, et ça fait un argument supplémentaire, parce qu'il y a le réservoir de joueurs, il y a le fait qu'ils soient évidemment champions du monde, il y a le vécu ensemble, qui est très important, comparé à l'Italie, par exemple. L'Italie n'était pas la Coupe du Monde 2018, la France l'a gagné. Donc il y a un vécu international qui est beaucoup plus important en France qu'en Italie. Donc c'est clairement l'équipe favorite pour l'Euro.
Et côté anglais, Julien, pour conclure le tour.
Même chose, favori chez les bookmakers, déjà en tout cas certains bookmakers, favori aussi chez les observateurs, les journalistes et autres joueurs, entraîneurs. C'est vrai qu'elle impressionne par son efficacité, pas par le style de jeu, mais ça ils s'en fichent les Anglais un petit peu, mais par l'efficacité et puis bien sûr par Kylian Mbappé. Les Anglais partent du principe qu'une équipe avec Kylian Mbappé, elle doit être favorite pour toutes les compétitions pour lesquelles elle va jouer. Donc voilà.
Alors Julien, la sélection anglaise, donc bon, victoire 5-0 sur Saint-Marin, ça c'est peut-être pas forcément le match le plus révélateur, mais est-ce qu'on parle toujours d'une génération prometteuse, ou est-ce qu'il y a eu, il y a cette Ligue des Nations qui a un peu douché tout le monde?
Non, alors la Ligue des Nations, effectivement, c'était une petite déception, surtout après la Coupe du Monde et surtout après la Ligue des Nations précédente. Mais il y a une génération dorée qui se détache, notamment offensivement. On en a parlé un petit peu hier soir dans l'after. C'est vrai que les choix pour Gareth Southgate en phase offensive, chez les joueurs offensifs, entre Kane bien sûr, mais aussi Sterling, Sancho, Rashford, et puis après tous ces jeunes ou moyens jeunes, on va dire, les Grealish, les Foden, les Mount, les Jude Bellingham, même si lui peut jouer un peu plus défensif, mais qu'on a vu hier pour sa première sélection. Le jeune de Dortmund de 17 ans qui a un talent fantastique. Il y a tous ces joueurs à disposition de Southgate. Le point d'interrogation reste encore effectivement la capacité que Southgate va avoir à trouver la bonne formule, à faire les bons choix parmi tous ces joueurs-là, parce qu'il a un réservoir fantastique. Et après, si effectivement ça commence à prendre, les Anglais vont y croire. Mais Polo a fait rire tout le monde hier en disant que les Anglais sont toujours le maillot jaune de la première semaine du Tour de France. Et c'est vrai qu'en général, ils font une très bonne campagne de qualification. Ils commencent en général plutôt bien, et puis après c'est beaucoup plus compliqué pour eux, c'est vrai, mais là ils ont une génération quand même assez fantastique, et c'est vrai qu'il faudra que Southgate, qui a un petit peu la pression sur lui aussi, mais s'il trouve la bonne formule, ça peut vraiment être intéressant pour eux.
Jérôme, tu les vois comment, les Anglais?
Oui, mais Julien a bien résumé, ils ont une bonne génération, et tous les joueurs qui jouent sont des titulaires indiscutables dans leur club et des bons clubs en Angleterre. Donc rien que pour ça, et voilà, il a créé une dynamique de groupe, ça se traduit par les résultats, et on sent que ils sont contents de jouer ensemble, contrairement à des générations où tu ressentais surtout sur les compétitions par moment ce manque-là. Là il y a ça. Après c'est toujours pareil, les Anglais, t'as beau, et puis c'est pas que les Anglais hein. Des fois tu domines, archi domines tes matchs de qualification, et puis t'arrives sur la compétition où là c'est pas la même préparation, c'est pas la même attente, il y a beaucoup de pression, et c'est vrai que cette jeunesse par moment leur fait défaut, et c'est pas par moment, c'est tout le temps ces Anglais hein, depuis pas mal de générations. Donc voir comment ils géreront tout ça, j'ai encore des doutes de ce côté-là.
On doit libérer Julien Laurence, il me semble. Julien, merci beaucoup.
Merci à vous, messieurs. Bonne fin d'émission.
Et on va enchaîner salut, avec l'Allemagne. Alors, on rappelle quand même que l'Angleterre joue dimanche en Albanie pour le match de ce week-end. Et on va passer à l'Allemagne. Donc, victoire 3-0 face à l'Islande. Et effectivement, on a l'impression du retour du rouleau compresseur, Polo.
Alors, Il y a plusieurs informations qui sont très très importantes. Un, tu as tout à fait raison, l'Islande n'a pas existé hier, mais surtout l'Allemagne a marqué dès la deuxième minute, et lorsqu'on parle d'efficacité, c'est ce qu'on reproche notamment offensivement à l'Allemagne depuis, on va dire, l'avant Coupe du Monde 2018. Et hier, c'était assez impressionnant la façon dont les Islandais étaient menés 2-0 après 7 minutes, et par un style de jeu qui fait extrêmement plaisir. La deuxième information qui est très importante, c'est qu'en Allemagne, on parle d'un redémarrage pour un nouveau départ suite à l'annonce du départ justement du Bundestrainer Löw après l'Euro 2021, comme si cela avait libéré un petit peu cette génération. Éclatons-nous pendant l'Euro et on verra bien ce qui se passera après. Et la troisième chose, c'est que ce match était plus important qu'on veut le dire, notamment pour les têtes, parce qu'on sortait d'une claque reçue face à l'Espagne le 6-0, et il fallait absolument montrer qu'on était capable. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tout le monde est content, y compris Uli Hoeneß, donc il faut le saluer. Donc la presse est dithyrambique, on a retrouvé quelque chose, on a joué en 4-3-3 qui pose d'autres types de questions, puisque Gundogan est évidemment dans la forme de sa vie. On a le milieu du Bayern avec Goretzka et Kimmich. Quid de Toni Kroos, qui est théoriquement un titulaire? Quid d'Havertz, qui était titulaire hier, mais on sait que ça va être Werner? Qu'est-ce qu'on fait avec le retour des anciens Thomas Müller, voire Jérôme Boateng en défense? Ça change beaucoup de choses. Mais en fait, si tu veux, c'est des questions entre guillemets positives. Et ça, la prestation de hier, qui évidemment est à confirmer, a fait que, on va dire, que la presse allemande au minimum a retrouvé le sourire.
Ça on peut le comprendre effectivement, et surtout quand on voit le 11 quand même allemand, enfin moi je trouve qu'il fait peur, hein, Polo.
Non, je réagis là-dessus, il fait peur, mais bon, Havertz, c'est même si ça va mieux depuis deux matchs avec Chelsea, il est en difficulté cette saison.
Polo pense à qui à la place
Werner, oui.
Sané n'est pas un titulaire indiscutable au Bayern aussi, avec Gnabry et Coman. Ça reste des bons joueurs, mais je suis désolé, moi, une sélection qui gagne les grandes compétitions, en général, c'est que les 11 joueurs sont des titulaires indiscutables et brillent dans leur club.
Ça peut s'entendre. On va continuer. Oui, comme Giroud, bien sûr. Giroud, il joue pas. On t'a dit qu'il jouait pas. Il a mis 11 buts, mais il joue pas. Ouais. Voilà. Dans une seconde, on continue sur l'Allemagne.
De toute façon, à la Coupe du Monde, combien de buts il avait marqué, Giroud?
Un, mais Mbappé lui a piqué.
Non.
On continue sur l'Allemagne dans une seconde, et on parle de l'Italie également. La sélection italienne, et également ce qui s'est passé au niveau des droits télé en Italie. Johan Crochet va nous en parler dans une seconde. À tout de suite dans Roten Régal.
RMC. 18h-20h. Roten Régal. Jean-Louis Tour,
Jérôme Roten.
19h13 toujours dans Roten Régal, bien sûr. Allez, on continue, Jean-Louis, avec Jean-Michel Larquet, bien sûr, avec le multiplex européen et nos correspondants.
Exactement. Et ne ratez pas à 19h30 le coup de gueule dans Roten Régal d'un ami de 30 ans de Michel Hidalgo, qui nous a quitté il y a un an et qui déplore que la Fédé n'ait pas rendu un hommage à la hauteur de l'ancien sélectionneur des Bleus. Ce sera tout à l'heure à 19h30. Mais donc, on est toujours avec Johan Crochet et Polo Breitner pour évoquer les sélections étrangères. On était donc sur l'Allemagne. On oublie totalement, Polo, puisque je reviens sur les résultats, le 6-0 en Espagne, le match précédent, alors ça commence à remonter, hein, c'était il y a longtemps, mais il est quand même encore dans les têtes ou pas?
Il est dans les têtes dans le sens où ça concluait un cycle, on va dire, qui a commencé pendant la Coupe du Monde 2018, qui a continué pendant les tournois allemands qui ont été extrêmement délicats. On considérait que le match contre l'Espagne n'était pas important. Puis quand tu te prends 6-0, tu te rends compte que c'est important quand même, rien qu'au niveau du mental. C'est-à-dire que les Espagnols peuvent se servir de cette victoire pour construire quelque chose. Alors celui qui a le plus dédramatisé, c'est évidemment Yogi Löw, parce qu'il a considéré que ce n'est pas que ça peut arriver une fois de temps en temps comme ça. Mais si tu veux, le problème, c'est que depuis l'échec de la Coupe du Monde 2018, il a essayé différents schémas de jeu, il a essayé différents joueurs, et on n'arrivait pas exactement à voir ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire qu'on est passé d'une domination, de possession ultra, on va dire, de l'équipe d'Allemagne à un jeu entre guillemets à la française, beaucoup plus solide, où on se mettait en contre. Donc, si tu veux, c'est tu peux pas du jour au lendemain changer comme ça. Il a évidemment banni, entre guillemets, les anciens, Thomas Müller, Hummels, Boateng, etc. Certains sont partis d'eux-mêmes, je pense à Mesut Özil évidemment, mais si tu veux, on savait pas trop où ils voulaient aller. Et puis, n'oublions pas que Yogi Löw, ça fait longtemps qu'il est là. Donc les gens, que lorsqu'ils ont reçu l'information comme quoi il a finalement arrêté après l'Euro 2021, eh ben on s'est dit, ah peut-être que ça va être le moment de changer et de faire un petit spectacle lors de l'Euro 2021. Et donc cette défaite contre la 6-0 contre l'Espagne, ça a permis, si tu veux, aux gens de se dire, oula, on est encore friable. Mais quand même, le match de hier, évidemment, contre l'Islande, et évidemment, ce n'est que l'Islande, a permis de se dire, oula, il y a quand même des choses assez intéressantes. Et ce qui est très intéressant, et ce qui est noté dans la presse allemande, c'est que, un, le groupe est derrière son sélectionneur, comme on en dise, et deux, ils ont retrouvé une forme physique qu'on n'avait peut-être pas vue depuis longtemps. Et ça, moi, je pense que c'est très, très important.
Vous pensez, Jean-Michel et Jérôme, que le fait que son destin soit déjà scellé, qu'on sache déjà que qu'après l'Euro, ce soit terminé pour lui, ça peut changer les choses positives pour son équipe, ou ça change pas grand-chose?
En tout cas, les choses sont claires pour les joueurs. Je ne sais pas si ça change grand-chose. Reste quand même que c'était l'Islande. Je crois que l'équipe de France, lors d'une compétition officielle, avait réussi à mettre 5 buts à l'Islande,
l'Euro 2016.
Me semble-t-il, à l'Euro 2016. Donc l'Islande, c'est quand même 500 000 habitants. Et on ne peut pas avoir une sélection islandaise qui tient la dragée haute à une équipe qui a, je sais pas, 80 millions d'habitants en Allemagne,
oui,
à peu près, voilà. Donc c'est quand même 3-0, c'est pas non plus une victoire exceptionnelle. Bon, c'est vrai, au bout de 7 minutes, il y en avait déjà 2 dans la cage islandaise. C'est mieux pour les Allemands. Ça ne me semble pas être redevenu l'équipe que l'on avait battue par miracle 1-0.
Quand ?
Lors de l'Euro ?
Non, 2-0. À l'Euro 2016 ?
2-0. Ouais. 2-0.
Oui, mais bon, par miracle, on avait galéré. Ouais.
Ah oui, oui.
Moi, la France avait été supérieure, moi.
Ah bah oui,
nous, première mi-temps. À la première mi-temps, on avait une leçon, Polo. Hein.
Ah, je pense qu'on avait un petit peu galéré. En fait, peu importe, on l'avait gagné. Mais l'équipe me semblait meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il me semble que l'équipe d'Allemagne est sur le chemin du renouveau. Elle n'est pas encore la grande Allemagne que j'ai connue lors de la Coupe du Monde au Brésil, par exemple.
Ouais. Bon, elle peut pas encore l'être parce que c'est la nouvelle génération, c'est des jeunes joueurs. Alors il reste des anciens, hein, bien sûr. Hein, Paulo nous le disait, mais voilà, t'as quand même un milieu de terrain qui est. Je pense que ils auront tous trouvé leur position, Goretzka, Kimmich, Gundogan, c'est vraiment très solide. Gnabry, Sané. Bon, je disais que ça n'était pas titulaire, mais ça reste quand même Werner.
Ça fait peur quand même.
Oui, non, mais après c'est toujours pareil. T'as les individuels, t'as les noms qu'on met en avant parce que ces joueurs-là sont capables de briller dans leur club. Après en sélection, il y a aussi
pour faire un collectif, etc. Contraire.
T'as le poids de la sélection aussi en Allemagne.
Il y a quand même une grosse ossature Bayern et il me semble quand même que de ce côté-là, c'est un avantage pour se refaire une santé. Pardon.
Et l'avenir du sélectionneur, Jérôme.
Tu as le oui. Bavarois, c'est...
Ouais, ça va loin. Jérôme, je reviens sur ma question sur le sélectionneur, qu'il ait clarifié sa situation, son avenir, ça change quelque chose pour les joueurs?
Ouais, bon, il était temps, hein, de toute façon, parce que.
Ah, mais du coup, c'est plus un sujet. Son avenir, le fait qu'il soit là depuis trop longtemps, qu'il soit usé, etc. Enfin, j'imagine que c'est moins un sujet en Allemagne.
Pardon, monsieur.
Vas-y, Polo.
C'est à moi un sujet en Allemagne, parce qu'en fait, Jérôme l'a très bien dit, ça suffisait, quoi. C'est-à-dire la Coupe du Monde 2018, c'est compliqué. Les deux années après ont été compliquées, notamment pour des qualifs ou des matchs contre des grosses équipes, etc. Où on est que l'Allemagne est capable d'aller l'emporter aux Pays-Bas, puis ils font n'importe quoi à domicile. Il y a des choses comme ça qui fait que, si tu veux, ce qui a été ressenti en Allemagne, c'est merci Yogi de nous avoir revenus sur le toit mondial en 2014, mais maintenant tu passes la main, quoi. C'est-à-dire, et c'est ça qu'on attendait un petit peu.
Salut Yogi.
Yogi, c'est comme ça, Joachim, c'est Yogi.
Bien sûr.
C'est un ami.
et donc en fait, bon, évidemment aujourd'hui, il y a qu'est-ce qu'on va faire après 2021, c'est très spéculatif. Bon, moi, je suis quasiment sûr que ce sera l'actuel coach 2021 qui le sera, d'ailleurs, le Stefan Kunz, qui sera Bundestrainer, mais c'est sûr que ça a fait du bien.
Très bien, on laisse l'Allemagne de côté, on part en Italie, ça vous va? Victoire 2-0 sur l'Irlande du Nord, donc. Et je regardais l'Italie qui enchaîne pas mal de victoires quand même, Johan.
Ouais, bah ils en ont enchaîné 10 lors de la phase de qualification à l'Euro, 10 victoires en 10 matchs. C'était, alors certes, c'était pas un énorme groupe puisque je rappelle, il y avait la Grèce, la Bosnie, la Finlande, le Liechtenstein aussi de mémoire, mais bon, quand même 10 victoires en 10 matchs, c'est assez rare pour être
sûr. Nous on est sûr de pas le faire là sur cette campagne.
Ouais, exactement. Et l'Italie, c'est peu habituel aussi en phase de qualification. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'a mis en place Mancini, c'est-à-dire que rappelez-vous qu'il arrive après l'énorme échec de 2017, c'était les playoffs pour la qualification à la Coupe du Monde 2018. L'Italie ne fait pas la Coupe du Monde. C'est un vrai problème. Il y a un énorme échec. Il y a même un désamour avec les supporters. Et Mancini arrive à amener des jeunes joueurs, amène du jeu, amène une équipe un peu plus proactive avec de la prise de risque, avec un football assez attractif. Et en fait, ça a matché assez vite. Et notamment, les jeunes joueurs se sont très vite appropriés cette équipe nationale. Je pense à Nicolò Barella. Je pense même à Locatelli qui est arrivé il y a pas très très longtemps, Spinazzola sur le côté gauche, Donnarumma dans les buts, c'est réglé, il a très bien pris la suite de Buffon, Lorenzo Insigne qui est devenu un patron aussi de cette équipe là. Donc il y a tout un travail qui a été fait de manière très intelligente et très fluide en fait, et ça porte ses fruits. Alors là, le match contre l'Irlande du Nord, honnêtement, les Nord-Irlandais sont venus avec une défense à 5, avec beaucoup de densité, etc. Ils ont plié ça en première mi-temps grâce à des buts de notamment d'Immobile et de Berardi, mais la deuxième mi-temps était plus poussive. On a senti une Italie qui essayait de gérer, sauf qu'elle ne sait pas gérer encore, elle n'a pas l'expérience pour le faire, le vécu international. Prenez des joueurs comme Locatelli, comme Barella, comme même Lorenzo Pellegrini de la Roma. Quelle est la réelle expérience, rien que européenne, au-delà même d'international, de ces joueurs-là, qui étaient les titulaires au milieu de terrain. Ouais. Donc, même de Domenico Berardi, etc. Donc voilà, Mancini...
Mais le milieu, là... Johan, je te coupe, mais le milieu qui a été mis en place là contre l'Irlande du Nord, donc c'est Locatelli, Verratti et Pellegrini, c'est ça?
Pellegrini, ouais.
C'est ça. En fait, il y avait pas. Si la question, j'essaye de devancer ta question sur Barella, peut-être.
Ouais. Vas-y.
En fait, si tu veux, il est arrivé après les autres au rassemblement parce que l'Italie, il y avait beaucoup de cas de Covid. Et en fait, ils ont eu l'autorisation des autorités sanitaires italiennes pour se rendre au stage. Un peu à la dernière minute. Donc il a pas voulu le mettre sur ce match-là titulaire. Il est rentré en deuxième mi-temps. Il est rentré à l'heure de jeu. Mais voilà, ça veut pas dire que Barella a perdu sa place. Bien au contraire.
Non. Mais c'est ça. Non. C'était.
Et Jorginho,
j'étais étonné
lui,
de pas le voir.
Et Jorginho, lui, était absent. Il est pas au rassemblement. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il y avait un milieu de terrain un peu new look qui a pas forcément été exceptionnel. C'est plutôt devant que ça a été plutôt pas mal avec Lorenzo Insigne notamment. Florenzi fait un bon match, mais voilà, c'était une victoire tranquille. On attend de voir. De toute façon, ce groupe-là, je suis pas sûr qu'il nous apporte beaucoup de réponses parce que au-delà de ce match contre l'Irlande du Nord, il y a ensuite la Lituanie, la Bulgarie dimanche, la Lituanie mercredi prochain, et ensuite par contre il y a un révélateur qui devient un peu plus intéressant avec la Suisse.
Très bien. Vous voulez ajouter un mot sur l'Italie, messieurs?
Non, moi,
c'est dommage, mais on est quand même loin des grandes équipes de l'Italie, et ils ont besoin quand même de retrouver quelques grandes stars. On va pas jouer les anciens combattants, mais bon, quand on voit l'équipe d'aujourd'hui et celle qu'on a connue auparavant, il y a encore un tout petit peu de chemin à parcourir.
Ah oui, totalement, tu as tout à fait raison, Jean-Michel, il y a un vrai chemin encore à faire. Et puis il faut pas oublier que là, les stars, en quelque sorte, c'est la charrière centrale, c'est Chiellini, Bonucci, ouais. C'est-à-dire des joueurs d'un statut international, et c'est les vieux, donc ils vont pas tarder à passer la main.
Comme sur RMC.
Donc il va falloir trouver aussi une nouvelle assise défensive. Donc il y a encore un long chemin, mais c'est prometteur.
Très bien. Et puis Johan, profitons de ta présence quand même, parce qu'il y a eu une nouvelle importante. Ça pourrait peut-être avoir des conséquences à un moment sur d'autres marchés, mais donc il y a eu l'appel d'offres pour les droits télé en Serie A pour la période 2021-2024.
Non.
Oui, Captain. Et alors, c'est pas Mediapro qui a gagné. Et c'est une plateforme de streaming qui a gagné, DAZN.
Exactement. Alors, pour info, Jean-Michel, Mediapro a fait une offre sur les droits internationaux pour la Serie A. Voilà, petite D'accord. info au passage. Mais oui, c'est DAZN qui a remporté les droits nationaux. 840 millions d'euros. Alors, ils ont pas tout. Ils ont 7 matchs en exclusivité et 3 en co-exclusivité. Donc, ils ont quasiment tout. Mais ils ont offert 840 millions d'euros. Il reste un petit paquet à obtenir. C'est les 3 matchs en co-exclusivité. Qui va les diffuser? Sky Italy, qui est le partenaire historique, ça fait 20 ans qu'il diffusait la Serie A, a proposé 70 millions d'euros, mais ça négocie, ça n'a pas été accepté aujourd'hui, sachant que l'appel d'offres, la validité se termine lundi, donc si lundi on n'a pas d'accord sur ce paquet-là, il est remis en jeu sur un nouveau, nouvel appel d'offres, pardon, et il y a d'autres diffuseurs, je cherchais le mot, qui sont intéressés. Donc on pourrait encore grappiller quelques millions.
D'accord.
Mais pour vous faire simple, il y avait 973 millions d'euros entre 2018 et 2021. Là, aujourd'hui, alors ça il y a 840 millions d'euros, 70 millions d'euros à peu près garantis par Sky, mais ça peut être un peu plus, 910. Mais Jean-Michel, il y a un truc que les gens oublient, c'est qu'entre 2018 et 2021, la Serie A versait 55 millions d'euros à Infront, qui avait agi comme conseiller lors de l'appel d'offres précédent. Ouais. Et là, ils ont fait sans Infront. Donc tu rajoutes encore 55 millions d'euros que tu ne vas pas dépenser, et tu arrives quasiment à ce qui était proposé avant. Et oui, la seule crainte qu'il y a, la seule crainte qu'il y a sur DAZN, c'est les infrastructures en Italie. Alors, ok, ils se sont associés à Telecom Italie, TIM, mais en Italie, vraiment, les infrastructures Internet sont bien loin de certains pays européens, à commencer par la France, par exemple. Ouais. Donc, il y a quand même une petite crainte sur est-ce qu'on va vraiment recevoir les matchs du championnat italien en bonne qualité, sans bug, etc. Il y a quand même petite crainte sur le passage au
100%. Un noir et blanc, c'est bien.
Ouais, Polo, bien sûr, Polo.
DAZN, bon, moi je suis un grand fan de DAZN, hein, par exemple, au niveau de la.
Ils font du très bon boulot en Italie aussi.
De qualité, formation des images, etc. La deuxième chose, c'est ce que dit Johan, est très important, mais ça confirme ce qui s'est passé en Allemagne, où on ne savait pas trop si c'était entre guillemets une défaite ou pas la baisse des droits de télé pour l'année prochaine, à partir de l'année prochaine. 2021-2025, ils avaient baissé de 5%, en globalité par rapport à 2017-2021. Ce que je constate, c'est que la pandémie et les choses comme ça fait que comme si on avait atteint un plafond de verre au niveau des droits de télé nationaux, en tout cas. C'est-à-dire que ça se joue à presque rien, en fait.
Mais tu sais, Polo, qu'en Italie, il y a plein de présidents qui ne pensaient pas arriver à un tel montant.
Exact. Et ben c'est la même chose en Allemagne. Les 5% de baisse, si tu veux, c'était considéré comme un miracle. Quoi.
D'accord. Merci, messieurs. C'était passionnant. Yoann Crochet.
On est à 5%. Non, on n'est pas à 5%.
Nous, on est un peu plus que 5%.
Ouais.
Mais il y a eu d'autres problèmes. Il y a eu d'autres soucis.
Nous, je crois que le plafond de verre, il a craqué, nous.
Oui, c'est ça.
Il a explosé, ouais.
On revient, nous, c'était le plancher de verre qu'on avait explosé. Donc, on a dû creuser. Dans une seconde, la Fédération française de foot a-t-elle un problème avec son histoire? Michel Hidalgo nous a quittés il y a un an. Très peu d'hommages rendus pour le sélectionneur. On en parle dans une seconde dans Rotten Régal. À tout de suite.
RMC
18h-20h
Rotten Régal. Jean-Louis Tour,
Jérôme Rotten.
19h30 toujours dans Rotten Régal pour cette dernière demi-heure. Et Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet, ma compagne, sont toujours là. Et Jean-Louis, on va parler maintenant de Michel Hidalgo.
Exactement, et puis je vous rappelle qu'il y a le quiz à 19h45, vous pouvez faire le 32-16 pour vous inscrire,
ouais, allez-y.
Faire équipe avec Jérôme ou avec
Captain. Mettez-vous à deux avec Jean-Michel.
Et on verra qui gagne à la fin. On reviendra aussi dans une seconde sur l'actu du jour. Stéphane Moulin a annoncé son départ d'Angers après 10 ans au club, donc il ne sera plus l'entraîneur la saison prochaine. On en reparle dans une seconde. Mais tout de suite donc, on voulait revenir sur Michel Hidalgo qui nous a quitté il y a un an, le 26 mars 2020, à l'âge de 87 ans. Michel Hidalgo, sélectionneur de l'équipe de France, vainqueur de l'Euro 84, notamment la demi-finale de Séville en 82. C'était avec lui également à la tête de l'équipe de France. Et pour revenir sur ce qui s'est passé depuis un an ou ce qui ne s'est pas passé, on est avec Nicolas Philibert, qui est un ami de longue date de Michel Hidalgo. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Et Luis Fernandez, ancien joueur bien sûr de Michel Hidalgo. Ouais. Salut Luis.
La légende.
Bien sûr.
Salut Luis.
Légende du foot français.
Bonsoir,
et d'RMC, bien sûr.
Bonsoir,
Michel. Légende. Ça va,
Luis. De tout.
Bah, avant d'avoir.
Oui, ça va très bien. Je suis chez moi. Je suis en Espagne. Je suis à Tarifa. Tu vois.
Très bien, Luis.
Ça profite.
Alors,
les amis.
Alors, Nicolas Philibert, il me semble que vous êtes donc agacé vis-à-vis de la Fédération française de foot, car il y a eu, j'allais dire, très peu, voire aucun hommage rendu à Michel Hidalgo depuis un an.
Oui, je,
je pense que Michel Hidalgo, qui avait cette popularité avec les gens parce qu'il a toujours aimé l'équipe de France, mais qui a servi pas seulement l'équipe de France, mais la Fédération française de football pendant 30 ans, n'a pas eu, à mon avis, la reconnaissance qu'il aurait méritée de la Fédération. Il n'y a rien eu de la Fédération, à part le communiqué du président de la Fédération lorsque Michel nous a quittés, mais sinon jamais rien eu. Après le départ de Michel, le 5 septembre, il y a eu un Suède-France, le 7 octobre, il y a eu un France-Ukraine, il n'y a rien eu, aucune organisation. Michel, c'est pas rien, c'est pas n'importe qui vis-à-vis de la Fédération.
Bien sûr. Ça, c'est, à mon avis, personne ici va vous dire le contraire. Mais que dit la Fédé sur ce dossier? J'imagine qu'il se réfugie derrière la pandémie et la crise du Covid.
Il n'y a pas d'excuse, parce que même si je ne veux pas faire de polémique, lorsque Michel a commencé à être fatigué, j'ai sollicité la Fédération. Oui. J'ai eu sa directrice qui m'a répondu une seule chose. Mais M. Hidalgo n'est plus à la Fédération depuis longtemps, ça ne nous concerne pas.
C'est pas vrai.
Et pourtant, ce n'était pas grand-chose ce que je demandais. Ce n'était pas grand-chose, bon, c'est un peu personnel. Mais
c'est dingue. Attendez, excusez-moi, on vous a fait cette réponse. Et juste, il n'est plus à la Fédé.
Et heureusement qu'il y a la famille du football, qu'il y a Jean Tigana, président du CIF, qui a été exemplaire. Absolument. Qu'il y a Henri-Émile, le formidable Henri-Émile, qui est loyal, qui est fidèle en amitié.
Justement, à ce sujet-là, j'ai eu un petit mot d'Henri, de Riton, qui dit qu'aujourd'hui, il devait rendre hommage à Michel. Oui. Et que la cérémonie est reportée au 26 juin dans les salons du Stade Vélodrome, à l'initiative du Club des Internationaux de France, dont je fais partie, et qui est dirigé par Jean Tigana, et pour mener l'urne de Michel à la nécropole de Vaudrance. Mais ça ne m'étonne pas, puisque le club des internationaux français qui essaie de faire vivre, parce que chez les internationaux, et Michel en était un, et Michel était à l'initiative de l'UNFP, il a été à l'initiative de beaucoup, beaucoup d'organisations. Le club des internationaux français a été l'objet d'une, on va dire, d'une enquête interne, et toujours de la même personne que vous avez citée. Et Jean Tigana avait d'ailleurs été mis un petit peu sur le grill par la directrice de l'équipe de France pour des raisons obscures. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un vrai problème de ce côté-là. Je ne le connais pas, mais il y a un vrai problème de ce côté-là.
Mais alors, donc ça ne t'étonne pas, Captain, mais j'imagine que ça vous révolte, non? Louis, ça doit te révolter d'entendre ça.
Bah, je vous écoute, là, c'est très attentivement. Je t'ai entendu dire de la pandémie. Il n'y a pas longtemps, au Parc des Princes, il y a eu le décès de Gérard Rouillet. On a bien affiché une belle photo de Gérard, tu sais, pour se souvenir de cet entraîneur.
Il y a des choses à faire, bien sûr.
C'est scandaleux. Je veux aussi te souvenir que M. Florentino Pérez, grand président du Real de Madrid, quand M. Raymond Kopa est décédé, il a pris un avion, il est venu à l'enterrement de M. Raymond Kopa. Il a même fait déplacer de Angers pour aller là-bas à Madrid, quand il a eu à recevoir les 5-6 ballons d'or que le Real de Madrid avait. C'est un oubli, ça manque de respect pour qui, vis-à-vis de qui, de M. Michel Hidalgo, l'homme qui a contribué, l'homme qui a fait. Alors, Jean-Michel en a dit du bien, et j'en dirai encore plus, parce que moi je l'ai eu en 82 novembre, et quand je suis rentré dans cette équipe de France, j'ai eu l'occasion de le connaître, de le côtoyer, de savoir ce que c'était un grand monsieur qui depuis 78, quand Stéphane Kovacs est arrivé bien avant, après il a pris la relève.
C'était son adjoint, oui.
Adjoint et pour amener cette génération, Michel Platini, Tigana, Gires, Batiston, Bossis, tous ces grands joueurs avec lesquels j'ai eu la chance de jouer. Et vous êtes en train de dire quoi? Nous allons te dire tout simplement que c'est lamentable, c'est scandaleux, que ça manque de respect. Un manque de respect, parce qu'en Espagne, en Italie, en Allemagne, ils ne risquent pas de les oublier, les grands, parce qu'ils les ont toujours su faire avec eux quand ils ont eu des problèmes ou des soucis. Et nous, en France, on ne sait pas le faire. Excusez-moi, c'est comme ça, c'est trop dur à le dire, mais c'est la France où il n'y a pas la culture du football, où il n'y a pas la culture par rapport à...
Non,
à
c'est personnes. Pas la culture du football, ça, Louis. C'est le respect, tout simplement.
Il n'y a pas de culture, Jean-Michel, où je dirais tout simplement, c'est que toutes ces instances que l'on a, les instances aujourd'hui qui ont voté encore pour le président qui est là, avec aussi la réélection de M. Raymond Domenech aussi, c'est quoi? C'est, tout est bloqué, tout est concentré sur une seule personne.
La réponse, Louis, Et oui, hein. Oui, oui, oui.
Raymond Domenech, c'est à l'UNECATEF et tu faisais référence à Noël Le Graët à la tête de la Fédé, bien sûr.
Bah oui, à la tête de la Fédé avec tous les grands électeurs avec lesquels il a su mettre sous sa poche ou sous sa main pour qu'il puisse être réélu. Voilà. Et puis, si t'as pas des hommes à la tête du football qui puissent se remettre un peu de l'ordre, ce genre de situation, comme on parle de Michel Hidalgo, pour moi, c'est très grave. Voilà, c'est tout.
Jérôme?
Ouais, non, mais je peux pas contredire tout ce qui a été dit par Jean-Michel, par Louis. Ils le connaissent bien plus que moi, Michel, même si j'avais eu l'occasion d'échanger avec lui du football, de sa passion, et que voilà, quand tu, même si c'est pas ma génération, moi, c'est ces hommes-là qui m'ont donné envie de jouer au football et de porter ce maillot de l'équipe de France. Dire il y a des personnes clés. Alors moi, il y a plusieurs choses qui me choquent. Déjà, le discours qu'on a pu donner.
La réponse à Nicolas Philibert qui avait sollicité la Fédé. La directrice générale de la Fédé.
Non, mais ça c'est pas possible. Ça, tu peux pas accepter ça. Ça, mais il faut dénoncer. Non, il faut dénoncer tout ça.
Moi, je m'en remets pas non plus, Jérôme, je suis d'accord.
Non, mais ça c'est incroyable. Après, que par rapport à la pandémie, mais là, je rejoins Louis, dire des choses, les clubs ont pu en faire ces derniers temps, parce que beaucoup de clubs ont été impactés, malheureusement, par la perte de beaucoup de personnes. Ça s'est accumulé sur cette dernière année. Donc, tu peux faire un hommage. Après, s'il a fait des...
Jérôme, il y a eu Ukraine-France, là, il y a 3 jours, non?
Oui, peut-être, mais après c'est un terme de communication, peut-être qu'ils veulent faire ça bien, du moins j'espère juste que c'est ça, et ils veulent faire ça bien avec du monde et tout ça.
On n'a pas eu les retours, et je te dis, Jean-Michel.
C'est décevant.
Ils veulent pas faire des choses. Ils ont mal fait. Ils ont très très mal fait. Voilà.
Non,
très
ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait.
Ils n'ont rien fait.
La pire des choses dans la vie, c'est l'indifférence. Là, c'est terrible.
D'ailleurs, je le dis,
je suis pas du tout objectif. Bon, je l'ai pas été souvent, mais Michel m'a donné le brassard de capitaine de l'équipe de France. Je l'ai vu.
Il a pas fait que des bonnes choses.
Non, pas certainement, mais en tout cas pour moi c'est un souvenir inoubliable. Quand vous êtes déjà avec le maillot de l'équipe de France et qu'en plus vous avez le brassard, et vous évidemment la personne qui vous a donné cette confiance là, vous lui vouez une estime. Oui, gigantesque. Je suis triste et révolté.
Nicolas Philibert.
Oui, Jean-Michel, je vais vous apprendre quelque chose. Est-ce que vous savez qu'en 82, lorsque Michel Hidalgo a parlé de sa succession avec Fernand Sastre, il a coché 3 noms. Celui d'Henri Michel, celui de Jean-Marc Guillou et celui de Jean-Michel Larquet. Oh. Vous étiez les 3 noms sur lesquels Michel pensait pour sa succession. Vous ne le saviez pas?
Pour être sélectionneur de l'équipe de France?
Oui, je le savais.
Pour être le successeur de Michel Hidalgo en 84?
À l'occasion de déplacement, j'étais à Châteauroux, et effectivement, celui qui était président à l'époque de la Ligue de football professionnel, et qui à l'époque avait encore mon téléphone, m'avait appelé pour éventuellement.
Mais c'est après ton passage.
C'était après ton passage victorieux au Paris Saint-Germain, pour apporter un peu de sourire.
Oui.
Louis, au Paris Saint-Germain, on s'est régalé tous les deux. Hein? Et tu te rappelles? Tu sais pourquoi je t'ai pas fait jouer en pro? Tu le sais, Louis?
Je ne me souviens pas trop, mais moi je travaillais.
C'est incroyable.
Louis,
tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait le problème des étrangers.
Des étrangers, oui, tu as raison. Exactement.
Et Louis était encore espagnol.
Sinon, ça aurait été ton pilier.
Si t'aimais pas Louis, c'est ton problème. Nous, on l'a aimé.
Louis, il aurait joué. Et les gars, j'ai fait jouer le mou, j'aurais pu faire jouer Louis.
T'étais aussi bon que Domenech, toi.
Non, mais attendez, si on repart sur les anciennes histoires, Louis, Jean-Michel, on est obligé de passer ça.
Non, mais c'est.
Écoutez.
Louis Fernandez, qui a la qualification pour la demi-finale de la Coupe de Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme. Oui, mon petit bonhomme, bravo,
Louis.
C'est gentil de faire passer ça, mais aussi une pensée pour Henri Michel aussi, parce que c'était Michel, Henri Michel qui était l'entraîneur de cette, de cette équipe en 86, et une pensée aussi pour lui. Et puis tu sais, quand on a fait l'hommage à Henri Michel à Nantes, il y en a qu'un seul qui ne l'a pas eu comme joueur ou qu'il n'a pas joué avec lui, c'est Zizou qui est venu, toi. Et ouais, je me rappelle que cette année, ce jour-là, il n'y avait pas le président de la fédération, il n'y avait personne, hein, des instances. Hein. Alors pour ça encore, si je voulais me remuer encore, me remonter encore, et déjà je suis suffisamment assez remonté. Avec
non, oui, ça va, ça va, ça va, ça va, t'as pas besoin.
Je préfère me taire parce que je commence à avoir assez de ce genre de situation où on oublie, et l'oubli pour moi, à jamais Michel Hidalgo, à jamais Henri Michel, ce sont des gens qui ont participé, qui ont contribué pour que je puisse devenir, que je puisse être ce que je suis devenu plus tard, voilà, sur l'équipe de France. Voilà.
Écoute, Louis, le message est passé, c'était le plus important. Merci d'être venu.
Ouais. Merci, Louis, d'être venu.
Et Nicolas. Bonne vacances à Tarifa dans le berceau familial, Louis.
Je rentre demain, je repars demain, je suis resté une semaine.
Bon, ça va, salut Louis. Salut luego, salut Louis. Oui, Nicolas, vous voulez ajouter un mot.
Parle pas trop espagnol avec Jean-Michel parce qu'il comprend rien.
Nicolas Philibert, oui, bien sûr.
Une petite anecdote qui vous dénotera la relation qu'avait Michel avec ses joueurs. Lorsque Michel était fatigué, je mangeais tous les midis avec lui et Monique dans la cuisine, et j'avais un deal avec Amoros, avec Giresse, avec Rosto, avec Fernandez, avec Lacombe, avec Jean-Claude Darmon. Et quand Michel était pas trop mal à midi, je leur envoyais un texto en cachette en disant « Vous pouvez m'appeler, Michel est bien ». Et un jour, Rosto me dit « Je vous appelle dans 5 minutes, je me gare ». Dominique Rocheteau me téléphone et je faisais l'imbécile. Et je disais à Michel, tiens Michel, j'ai Dominique Rocheteau au téléphone, il veut prendre de vos nouvelles, je peux vous le passer? Michel disait oui. Et je lui passe Rocheteau et je devine dans sa conversation que Rocheteau est surpris parce que Michel avait une bonne voix, il était agréable, et qu'il lui a dit, Michel, c'est bien, je suis content. Et Michel lui dit, oh tu sais Dominique, je ne ferai pas chanteur demain, hein, tu veux plus que je fasse du foot, ma voix elle est comme elle est. Et puis Michel raccroche au téléphone après 3 ou 4 minutes et se met à pleurer. Et Monique et moi, on est surpris. On lui dit, mais Michel, qu'est-ce qui vous arrive? Et Michel nous dit, tu te rends compte, Nicolas? J'ai eu Dominique Rocheteau en équipe de France scolaire. Il avait 15 ans. Je suis un vieil homme et il téléphone pour prendre de mes nouvelles. Voilà, ça, et c'était les joueurs de l'équipe de France. C'était Michel. Ouais. Michel avait dit de ses joueurs que ce qui donne la force, c'est la tête donne la dimension, le cœur, la tête donne la solution, le cœur donne la dimension. Il me disait, j'avais des types bien. Dernière anecdote, si vous me permettez.
Je pense que vous venez de décrire des types bien et un mec bien aussi temps. Allez-y, Nicolas, une autre anecdote, c'est très touchant.
La dernière, le mercredi 12 février 2020, grâce à Jean Tigana et Henri Émile, qui ont été formidables, ils ont organisé au David un déjeuner. Il y avait tous les joueurs de l'équipe de France. Michel ne savait pas qu'il allait à ce déjeuner. Je lui ai fait croire avec Monique qu'il allait à une visite médicale. Il arrive sur un fauteuil roulant parce qu'il était faible. Il a fait ce repas. Il a mangé comme il n'avait plus mangé depuis 2 ans. Et lorsqu'il rentre à la maison, l'ambulance le ramène à la maison, à la Cadenelle, et moi je le rejoins 30 minutes après. Il était sur son lit médicalisé et il regardait l'équipe TV, il regardait les boules. Et puis il m'appelle et il me dit, Nicolas, il y avait combien de joueurs? Et moi spontanément, je lui dis 22, Michel. Et il me dit, va voir Monique, tu leur dis que demain on recommence. Michel, malgré sa fatigue, s'était rendu compte de tout. Et je suis heureux parce que c'est son dernier repas et je l'ai senti heureux.
Eh ben Nicolas, merci beaucoup pour toutes ces anecdotes.
Nicolas.
Bravo pour les mots que vous avez utilisés pour nous raconter tout ça. Et encore une fois, on vous accompagne dans votre
pour
combat.
Michel,
on vous
accompagne toujours disponible.
Eh ben merci beaucoup Nicolas Philibert, donc ami de longue date de Michel Hidalgo, et merci d'avoir sensibilisé tout le monde sur le fait que la Fédé n'ait absolument rien fait un an après le décès de Michel Hidalgo.
Heureusement, il y a des gens comme Tigana, il y a des gens comme Henri Émile.
Oui, évidemment, c'est bien de les mettre en avant, mais normalement, ça devrait venir d'une Fédé. Mais en tout cas, merci.
Oui,
merci Nicolas. Et d'ailleurs, j'ajoute que le compte Twitter de la Fédé, ça coûte rien de faire un tweet. Hein. Il n'y a absolument rien sur Michel Hidalgo aujourd'hui. Dans une seconde, on va finir avec un peu plus de légèreté, avec le quiz de Roten Régal. A tout de suite sur RMC.
RMC, Roten Régal, Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h49, toujours dans Roten Régal, bien sûr, les 10 dernières minutes. Et là, qui dit les 10 dernières minutes, Jean-Louis, c'est l'heure du quiz.
Oui, alors juste avant, je donne quand même l'info de la journée en Ligue 1. Donc Stéphane Moulin, conférence de presse à Angers. L'entraîneur donc qui a la plus longue présence sur un banc de Ligue 1 des 5 grands championnats annonce donc que c'est terminé. Après 10 ans sur le banc d'Angers, à la fin de la saison, ce sera terminé. La longévité peut devenir une faiblesse, a-t-il dit, et je ne voulais pas en arriver là. Je suis amoureux de ce club et je le resterai à jamais. À voir donc s'il arrive à rebondir en Ligue 1 dès l'année prochaine, Stéphane Moulin. On enchaîne, donc on y va. Donc ce ne sera pas une question du quiz, hein, je vous le dis. Rayez ça si vous voulez.
Je l'ai barré, j'ai barré. Moulin,
allez, on y va. On joue.
RMC, Rotten Régal.
Comment moi, je ne sais pas que Saint-Etienne a gagné plus de Coupe de France que Monaco.
Ça a été moins réactif, c'est l'âge.
Quoi ? Pardon ?
Le quiz.
Ce rire. Alors on y va. Le quiz avec Adam. Salut Adam.
Salut Adam.
Il est où ? Il est là. Salut Adam.
Salut Jean-Louis, salut toute l'équipe.
Tu veux faire équipe avec Jérôme ou Jean-Michel ?
Non, je me mets avec Jean-Michel, on va le rendre humble, Jérôme.
Très bien. Pierre est là. Salut Pierre.
Oui, salut.
Oh là là. Salut Pierrot.
Salut Pierrot, Pierre.
Alors Pierre, tu fais équipe avec Jérôme, tu es un fidèle de Rotten Régal.
Oui.
Alors donc, allez, des questions d'actu sur l'actu de la journée et des questions sur la première journée des éliminatoires de la qualif à la Coupe du Monde 2022. Voir si vous avez bien suivi les matchs qui se sont déroulés. Question d'actu, un Kikadi qui a dit « Oui, nous étions intéressés une fois par lui, mais nous ne sommes pas allés jusqu'au plat principal. » C'est un dirigeant d'un club qui parle de Zlatan Ibrahimovic, qu'il a voulu recruter en 2013. Non. Président d'un... Non, pas Monchi.
Jean-Michel Aulas.
Pas Jean-Michel Aulas. Président d'un grand club européen.
Agnelli.
Beckenbauer.
Non, pas Beckenbauer, mais t'es pas loin.
Honnête.
Ouais, Uli Honnête, bien joué. C'est une passe décisive, Jérôme, que tu mettes une passe D, ouais, c'est pas si étonnant quand même.
Voilà, il a, ça pas, c'est honte, comme il a les... pas honte, il a pas honte de profiter de ça.
Magnifique, Jérôme. Alors attention, donnez-moi un buteur du groupe J. Non, pas les Vanskovski. C'est le groupe avec l'Arménie, le Liechtenstein, la Roumanie, la Macédoine du Nord, l'Islande et l'Allemagne.
Eh ben, Goretzka,
Goretzka. Adam, bien joué. Alors, c'est Adam, mais Jean-Michel, t'as dit Goretzka, non. Donc, ça passait pas. Oui, passe décisive pour Adam. Ça fait 2-0.
2-0.
J'ai l'impression que Jérôme, là, en vacances, c'est pas trop ça. Il a pas trop posé le quiz. Attention, qui a tweeté aujourd'hui ? De retour, plus de peur que de mal. Merci. Merci pour vos messages chaleureux. Oui, Dembélé, Adam, bien joué. 3-0. Ouais, c'est terrible, hein. C'est terrible.
Bon, ça se passe comme prévu.
Pierre, t'es là ?
Oui.
Ok, très bien.
Allez, alors, Pierre.
Donnez-moi un buteur anglais lors de la victoire à Saint-Marin.
Sterling.
Ah, c'était Adam. Non, c'est Adam.
Ah non, c'est moi.
C'est Adam qui a
dit. Mais tu vois, quand on est en décalage. Hein.
Ah, il y a un décalage, putain. Fais chier ce décalage.
4-0. Putain. Attention. Pourquoi Thierry Henry est-il dans l'actualité aujourd'hui ?
Il a arrêté les réseaux sociaux.
C'est Pierre. Non, c'est Pierre qui est parti en premier.
C'est moi.
Non, c'est pas toi. Effectivement, Thierry Henry qui a annoncé quitter les réseaux sociaux parce qu'il il en a marre de ce qu'il lit. Voilà.
4-2.
Intéressant quand même. 4-1. Attention. Où entraînera Xabi Alonso l'an prochain ? Bien joué Adam. Il s'est pas fait avoir. 5-1. Et oui, Xabi Alonso qui était sur les tablettes de Mönchengladbach pour remplacer Marco Rose. Bah, finalement, il a prolongé avec la réserve de la Real Sociedad. Donc il sera toujours là-bas la saison prochaine. Intéressant. Attention, lors de cette première journée des éliminatoires, qui a inscrit un triplé ? Non, pas Zlatan.
Non. Merde, je le sais.
Il y en a deux.
C'est Lewandowski.
Non, ils sont deux à avoir mis un triplé. Un tchèque.
Ouais,
Salah.
Non. Putain, et un turc.
Ah ben.
Burak Yılmaz, Adam, bien joué.
Bien, Adam.
Jérôme, il y a un petit décalage pour que ça arrive, mais il a les réponses quand même.
Mais ça arrive pas.
Bon, là, ça fait 6-1. Pierre, t'es toujours là ?
Oui.
Très bien. Alors.
C'est un bon score, on peut s'arrêter là, non ?
Ouais, c'est un beau score, 6-1, mais on va continuer quand même. Alors, est-ce que vous êtes capable de me dire que vient faire Thomas Grønmark au club de Toulouse, au TFC ?
Préparateur physique.
Il est pas dirigeant, il est pas
préparateur psychologique. Il est pas masseur, kinésithérapeute.
Non. Il arrive dans le staff technique.
Bah ouais, il va porter les plots.
Non.
Gardien de but.
Oui, Adam, spécialiste des touches, bien joué. Adam, il est incroyable. Ça va être un consultant extérieur pour les touches. Il faisait ça à Liverpool, ouais. Et ben il va le faire à Toulouse aussi. Ouais, il va venir travailler que les touches.
Ouais. C'est bien fait. Il a des bonnes idées, Patrice Garand.
Ah ouais. Là, je pense que c'est plus Damien Comoli, mais
ouais, à mon avis, ouais.
Il a d'ailleurs rappelé qu'à Liverpool, 14 buts ont été inscrits après une touche. et ça peut changer complètement le fil d'une saison.
Voilà. Ouais, c'est sûr.
On pourra faire un sujet sur les touches un jour. Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme?
Ouais, sur Damien Comolli aussi.
Aussi, aussi. Attention.
Vous m'invitez pas. Vous ne m'invitez pas parce que.
Attends, il fait du super boulot à Toulouse.
Ah, attention, ouais, ça se souvient encore à Saint-Etienne.
On revient sur les éliminatoires. On va voir si ça va finir à 7-2, parce que pour l'instant, il y a 7-1. Qui était le gardien du Portugal contre l'Azerbaïdjan?
Lopez.
C'est Pierre qui l'a dit.
Oui.
Bien joué,
bravo,
Pierre.
Pierre. 7-2. Qui était le capitaine de l'Italie contre l'Irlande du Nord?
Verratti.
Non.
Non, Chiellini.
Oui, Chiellini, Jérôme, bien joué. 7-3. Ah merde, ça remonte. Ça remonte, ça va être incroyable.
Vas-y, enchaîne.
Alors, attention. Ronaldo a réclamé des recrues, selon la Gazzetta dello Sport, pour la saison dernière. Et le même journal a sorti
pour la saison prochaine.
Pour la saison dernière.
Pour la saison prochaine. Aguero et Keane. Adam, il est trop fort. Et il est concentré.
Oui, mais je les avais, j'attendais que tu veux. Putain.
Bah oui, mais bon.
Ouais, c'est ça, oui, c'est bien ça.
C'est fini. Adam, bravo.
C'est fini.
Bravo, Adam, t'es allé chercher tous les points.
Adam.
Alors que Captain Dorme.
Adam, tu rappelles plus, hein.
Adam.
Allez, à l'année prochaine.
Les prochains, tu rappelles. On fait une équipe et on va humilier Rotten.
T'as pas donné une seule réponse aujourd'hui.
Non mais moi, ma grande force, c'est de faire confiance aux gens.
Ouais,
et je fais confiance à Adam.
Adam, on t'envoie un t-shirt RMC.
Pas toi, Jérôme, pas toi.
Et tout de suite, j'aurais appris une chose, que Michel Hidalgo t'a donné le brassard. Mon Dieu.
Et qu'il a failli succéder à Michel Hidalgo, Jean-Michel, t'imagines? Alors, l'intégral sport spécial rugby.
On s'est fait des amis, je crois, la Fédé.
Là, il y a du lourd. Christophe Cessieux, salut Chris.
Il y a du lourd quand tu parles de moi, c'est sympa comme accueil. Merci Jean-Louis.
La soirée va être magique.
On espère évidemment.
Oh là,
Christophe, t'as fini ton goûter ou pas?
Non, pas encore. Je viens juste de dîner. Mais j'aurais
pas c'est sûr. Les vieux comme ça, quand ils n'ont pas le dentier, c'est long à bouffer. C'est long.
Mais tu sais ce que c'est, des longues heures d'antenne. On est obligé de se restaurer. Autrement, on va tomber d'inanition. Pas de problème ce soir.
Et non, pas d'animation.
Et pas d'animation. Non, ça, c'est pas possible. On ne peut pas tomber de ça. France-Écosse, évidemment, c'est le choc de la soirée. La France peut remporter ce match, mais ça ne suffira pas. Il faut remporter ce match avec des conditions extrêmes pour remporter le tournoi. On va vivre cette soirée jusqu'à minuit, exceptionnellement after rugby entre 23h et minuit avec toute l'équipe. Au stade, nous retrouverons Wilfried Templier et Denis Charvet, et puis seront avec moi également Richard Pouljones, Richard Dourte et plein d'invités, dont Mathieu Bastaro.
Oh, qui sera avec nous.
Grande soirée rugby, on n'oublie pas le match des Bleus.
Vincent Moscato aussi, non?
Non, il n'y a pas le droit de travailler. Il est trop cher, surtout. Et puis Kazakhstan France, c'est dimanche 15h. On le débriefera dans Top of the Foot lundi 18h. 8h et Rotten Régal est de retour vendredi prochain. Ciao.
Bien sûr, allez, bon week-end.